Voisine, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on s'intéresse aux dialogues impossibles. Nous vivons une époque où apparemment le dialogue est partout, sur les réseaux sociaux. Et pourtant, nous avons de plus en plus de mal à nous parler, à nous confronter à l'autre. Désaccords, incompréhensions, conflits. Qui n'a jamais connu cette frustration de ne pas pouvoir exprimer ses idées ou ses sentiments en famille, entre amis, en couple, mais aussi dans la société, à l'école, à l'hôpital, dans la rue? Il existe finalement peu d'espace et de techniques pour partager des divergences. Alors comment renouer le dialogue quand on est en conflit? Nous allons en discuter avec Dominique Picard qui est au téléphone avec nous. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychosociologue, spécialiste des relations sociales. Vous avez publié « Les conflits relationnels ». C'est un que sais-je très pédagogique qui a été réédité l'année dernière. Également avec nous, les auditeurs les connaissent bien, Charlie Dupiot, Alice Milot. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour, bonjour Emmanuel.
Et merci d'être avec nous chez 7 milliards de voisins. C'est sympa d'être réunis. Vous êtes reporter pour RFI. Vous avez créé, il y a un an et demi maintenant, un podcast indépendant très original dans son concept. Ça s'appelle Postscriptum, Alice Milot.
Oui, c'est un podcast en fait de lettres sonores qui donne à entendre aux auditeurs en fait des dialogues impossibles. C'est ça l'idée.
Et on se rend compte en fait que le micro peut devenir un médiateur.
Alors justement, on va découvrir comment vous avez travaillé, à quoi ça sert, quels résultats, parfois assez époustouflants. Et quant à vous, les voisins et les voisines, appelez-nous maintenant si vous vivez une situation de conflit, par exemple de tension, de paroles bloquées avec une ou des personnes de votre entourage. Ça peut être avec votre voisinage, dans votre quartier. Appelez-nous, surtout n'attendez pas la fin de l'émission, appelez-nous au 33 7 64 45 51. 41, c'est notre compte WhatsApp, 33 7 64 45 51 41. Ismaïla nous a posté un message de Nouakchott en Mauritanie quand il nous dit « Quand la communication est cassée, il faut prendre son courage à deux mains. Chacun doit reconnaître ses erreurs pour que tout revienne dans l'ordre. » Innocent est N'Djamena, 28 ans. Il nous dit « La communication, c'est la base de toute bonne relation. Avec mon amie, on s'entend très bien. Elle me dit qu'elle aime ma compagnie parce que je sais l'écouter. » On s'écrit aussi beaucoup, mais parfois on ne se comprend pas par SMS et on s'énerve. Alors on fixe ensemble une date pour se retrouver face à face et expliquer clairement les choses. Si je réalise que j'ai tort, je demande pardon. Si c'est elle, elle fait pareil, mais c'est absolument idyllique. Hein. Je me demande certains jours si ça peut continuer, car elle n'a que 19 ans. Bon, finalement, 9 ans d'écart, c'est peut-être pas ça le problème, si on sait communiquer. Et puis, écoutez aussi le message posté par Lionel à Kinshasa.
Salut 7 milliards de voisins. Il y a d'ici là 2 ans, avec nos voisins, on a eu des conflits qui nous ont coûté énormément. On a couru beaucoup de risques. Je dirais que la communication est le secret de régler tous les problèmes. Moi, à mon tour, j'ai vite compris que je devais faire ces pas-là vers mes voisins, puisque là, vraiment, dans les quartiers, on s'attendait plus. Et quand je suis allé voir mes voisins pour essayer de régler ces problèmes, j'ai entièrement compris que je devais d'abord adopter cette attitude de l'écoute, donner la parole à l'autre. Et j'ai vite compris que ça allait fonctionner parce que quand on donne la parole à l'autre dans un conflit, tout de suite, la personne est dans un état de confiance. Il s'est dit, bon, là, on m'écoute, je peux exprimer mon chagrin, je peux exprimer mon regret, mes contentements, etc. Moi, je prends la parole après et ça a vraiment du tout fonctionné. Salut, chers voisins.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Et merci à Lionel qui postait de Kinshasa. N'hésitez pas aussi à poster quand la parole est bloquée, la parole ou l'écriture, hein, puisqu'on peut aussi désamorcer des conflits par l'écriture. On verra d'ailleurs la différence entre parler et s'écrire. On va commencer avec un cas concret avec vous, Charlie Dupiot. Une des lettres sonores du podcast Postscriptum concerne le monde de l'école.
Oui, et c'est un monde qu'on a essayé, dans lequel on a essayé d'entrer avec Postscriptum. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de non-dits, de dialogues qui étaient n'est pas possible vraiment dans ce milieu-là. Alors à la fois entre élèves et profs, quand il y a des conflits, mais aussi entre élèves et élèves, en fait, entre élèves. Et donc on est allé recueillir la parole de deux élèves, Marie et Émilie, 18 ans, donc qui sont dans un lycée professionnel à Auxerre, en Bourgogne. Elles se sont en fait bagarrées violemment, elles n'en ont jamais reparlé depuis, voilà, même dans le cadre de l'école, jusqu'à ce qu'on leur propose un dialogue pour qu'elles s'expliquent, hein, donc par micro interposé. Et cette lettre sonore s'intitule « Chers camarades de classe ».
Chère Marie, on est dans la même classe et cette année ça a été compliqué entre nous. Il y a des choses de mon passé que tu ignores et tes mots m'ont blessée. Maintenant, en écoutant cette lettre, tu pourras mieux me comprendre et comprendre la réaction que j'ai eue à ton égard. C'était durant un examen d'SST, une formation de sauveteurs secouristes du travail. Au moment de l'examen, on a eu des situations tirées au sort. Pour ma part, je suis passée sur un bébé en étouffement qui avait mangé des perles. Donc j'avais un bébé qui était à terre, qui ne respirait plus, qui était tout bleu. Et donc je devais faire une manipulation pour lui extraire la perle qu'il avait coincée dans l'œsophage. J'ai maîtrisé ce que j'avais fait. Sur la pratique, Marie ne l'a pas eu, et moi, sur la pratique, je l'ai eu. Marie, de son côté, était très agacée. Elle en voulait à la professeure, pensant que la professeure avait fait exprès de lui donner un sujet compliqué. Et du coup, elle a commencé à lui parler mal. Voilà, il y en a qui passent sur des sujets super faciles, nous vous faites exprès de donner les durs, c'est pas juste, c'est pas équitable, tout ça.
J'ai claqué la porte en sortant et elle m'a dit « Ouais, c'est pas ta mère qui paye, ça se voit. » Et du coup, bah là, enfin, ça m'a blessée, quoi. Forcément, quand il y a le nom maman ou mère, ça me blesse. Et une fois qu'elle avait fini, j'ai juste dit « Ne parle pas de ma mère. » Et après, elle a commencé à s'énerver. Voilà, après, c'est parti. Enfin, loin.
En bagarre ?
Ben, on s'est tapé dessus.
On s'est attrapé là où on pouvait, on tapait là où on pouvait. Et on est tombés toutes les deux, donc ça faisait une grosse boule. Personne voyait ce qui se passait. Coup de poing, coup de pied, tout a été mis en œuvre pour essayer de faire le plus mal à l'autre.
Bah moi, j'étais dans le rouge, quoi. J'entendais plus rien. J'étais énervée, voilà quoi. C'est un cumul de tout en fait, de tout garder en soi et un jour, faut bien que ça pète, quoi. Chers camarades, je voudrais te dire que après cette altercation, je m'excuse et d'en être arrivée là. Je trouve ça bête.
On ne s'est pas vraiment parlé, on ne s'est pas expliqué du tout. Même aujourd'hui, on se reparle et on ne s'est pas expliqué. J'étais déçue qu'on en soit venu aux mains. Elle sait qu'elle a touché des points sensibles en me parlant mal. Et je sais que je l'ai touchée aussi sur certaines choses que je lui ai dit.
Quand on me parle mal ou... Enfin, je ne sais pas, quand on parle de quelque chose qui va me toucher... Par exemple, ma mère, bah, ça me blesse. Bah, à mes 18 ans, le 31 mai, ma mère m'a abandonnée et m'a mis dehors. Le 31 mai 2018. Mon père et ma mère, ils étaient séparés. Je vivais en garde alternée, c'est-à-dire qu'avant, je vivais avec ma mère et tous les 15 jours, j'allais chez mon père, le week-end. Et depuis, j'ai eu aucun contact.
Le principe de ces lettres sonores, Charlie Dupio et Alice Milo, normalement, ce sont deux protagonistes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas été en conflit. Mais là, pour ces deux élèves, ce sont ces deux élèves-là qui se sont bagarrés.
Oui, effectivement. Et en fait, on est passé donc par leur établissement, par la CPE, l'établissement, la conseillère principale d'éducation, en lui demandant quel conflit avait eu lieu récemment dans l'établissement. Elle nous a directement parlé de celui-là. Et elle a proposé aux deux élèves de participer. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'elles ont tout de suite dit oui. Alors, elles étaient assez surprises qu'on leur propose de revenir sur cette histoire qui paraissait assez insignifiante pour elles. Ou en tout cas, elles se disent que ça ne va intéresser personne. Et en fait, après les entretiens, donc on les a interviewées séparément, Alice et moi, c'est souvent comme ça qu'on procède.
Mais simultanément.
Et simultanément, donc ça, c'était pas mal. Et à la fin, on a fait un petit débrief collectif où, en fait, elles avaient toutes les deux aimé l'exercice et aimé donner leur version des faits et aussi donner voilà, leur ressenti à elles, en fait, chacune séparément.
Mais elles se sont tout de suite positionnées dans une attitude où elles étaient prêtes à exprimer les choses avec bienveillance vis-à-vis de l'autre. Parce qu'en fait, on leur offrait quelque chose, enfin, un espace de paix, en fait, dans lequel elles pouvaient se réconcilier sans se voir. Et ça, c'est, je pense, quelque chose ce qui leur a plu. Et savoir qu'ensuite elles allaient pouvoir entendre ce que l'autre avait dit, mais du coup le faire avec empathie, ça c'est vraiment nos deux mots-clés. En fait, c'est la bienveillance et l'empathie. On tourne autour de ces deux mots-clés et cet outil essaye de donner ces deux aspects-là en permanence. En fait.
Et la règle, c'est que les personnes, les protagonistes ne se voient pas.
C'est pour ça que ça marche. En fait, c'est parce que quand vous êtes face à l'autre, alors il peut y avoir un rapport de hiérarchie qui fait que bah, forcément vous n'osez pas exprimer les choses. Dans les conflits, par exemple, de société, on y reviendra plus tard. Par exemple, dans l'école, si vous devez régler un problème entre un élève et un enseignant, l'élève n'aura jamais la disponibilité, la possibilité d'exprimer les choses clairement face à un enseignant parce qu'il y a un rapport de hiérarchie naturel. Donc là, vous brisez ce rapport de hiérarchie en ne créant pas le face-à-face. Mais quand vous êtes face à deux élèves ou à tout simplement de personnes qui sont en conflit mais dans un cadre intime, vous êtes d'un coup envahi en fait par vos émotions, par exemple par la colère. Ça vous paralyse et vous pouvez pas exprimer les choses calmement, même face à votre propre maman, à votre frère,
à votre
soeur.
On n'a pas le risque d'être coupé quand on parle à quelqu'un d'autre sans que l'autre soit présent. Voilà, on va s'exprimer, donner sa version tout seul.
Donc finalement le micro cloisonne et en même temps recolle les morceaux d'une certaine façon.
Exactement, ouais, c'est vraiment une médiation que ça joue en fait.
Dominique Picard, vous avez entendu cet extrait, vous avez entendu plusieurs lettres sonores de ce podcast indépendant Post-Scriptum, créé par Charlie Dupio et Alice Milo. Comment vous réagissez en tant que psychosociologue ?
Oui, alors d'abord je suis tout à fait d'accord avec les analyses qui viennent d'être faites et je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que... ce qui a été important pour ces deux jeunes filles aussi, c'est de pouvoir exprimer leur point de vue. Parce qu'en fait, dans toute situation, les situations que l'on vit ne sont pas des situations objectives. On vit les choses toujours de manière subjective et de son propre point de vue. Et au fond, toutes les deux se sont senties agressées, se sont senties victimes dans cette confrontation. Et toutes les deux ont été également un petit peu honteuses.
Vous voulez dire que toute situation a sa part d'irrationnel, finalement ?
Irrationnel, oui, mais surtout subjectif, parce que l'objectivité, ça serait la possibilité de dire, par exemple, qui a commencé dans une bagarre. Eh bien, là, à travers ce qu'elles ont dit, moi, je suis incapable de savoir qui a commencé, parce qu'en fait, au fond, leur bagarre a commencé avant. Regardez celle qui a été abandonnée par sa mère. Elle dit tout de suite, mais elle savait bien qu'il ne fallait pas parler de ma mère. C'est-à-dire qu'en fait, le début de la bagarre, pour elle, a commencé bien avant. Puisqu'elle savait, le simple fait de parler de ma mère ne faisait que c'était elle l'agresseur. Et l'autre, dans son récit, dit qu'en fait, elle était bien dans son examen et que c'est sa camarade qui l'a agressée en premier.
Alice,
vous voyez qu'il n'y a pas d'objectivité. Et là, elles ont pu exprimer leur subjectivité, donc elles ont pu se positionner leur réaction en tant que victime, je mets ce mot entre guillemets, et elles ont pu expliquer pourquoi elles se sont fâchées.
Je voudrais qu'on revienne sur l'aspect de la parole et de l'écriture. Un auditeur nous disait tout à l'heure, Lionel, on s'envoie des SMS pour régler la situation, mais parfois on a besoin de se parler. Alice Milo et Charlie Dupio, vous demandez systématiquement aux protagonistes des lettres sonores de commencer par l'écriture, puisqu'on les entend souvent lire un texte qu'ils ont écrit et ensuite ils s'expriment librement à votre micro.
Ça dépend, en fait. On s'adapte vraiment aux gens avec qui on travaille parce qu'en fait, pour certains, ça peut être très difficile de commencer par l'écrit. Il y a des gens qui sont très complexés avec l'écriture et en fait, ils ont besoin d'abord de passer par cette phase d'oralité pour conceptualiser avec notre aide leur frustration, leur sentiment de colère. Voilà. Et en fait, ça, c'est presque un travail entre guillemets thérapeutique qu'on essaie de faire avec eux, même si je mets vraiment des grandes guillemets parce qu'on n'est pas du tout psychothérapeute ni l'autre. Mais il y a quand même de cet aspect-là, quoi. On va aller chercher avec eux les mots les plus justes pour exprimer leurs sentiments. Et donc, c'est seulement une fois que ce travail-là a été fait qu'ils arrivent eux-mêmes à se réapproprier avec leurs propres mots et passer par l'écriture. En revanche, il y a des gens qui ont besoin de passer par l'écrit, hein, Charlie, d'abord.
Oui, il y a des gens qui vont beaucoup plus parler d'eux, par l'écrit. Ça va être plus simple, en fait, d'avouer des choses. Je pense notamment, on a fait voilà, une lettre sonore sur la thématique du cancer du sein, avec une femme qui raconte sa lutte contre son cancer du sein et qui, à l'oral, veut jouer ce rôle de personne qui est brave, qui est effectivement courageuse et qui n'a pas été trop impactée, alors qu'à l'écrit, elle parle de poison, elle met des mots beaucoup plus forts par rapport à l'oral. Donc je pense que ça dépend, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on propose les deux, en fait, et l'écrit et l'oral, et que ça se complète très bien en général.
La parole et l'écriture dans la résolution de conflits, quelles sont les différences, Dominique Picard ?
Ben, l'écrit donne le temps de se centrer sur soi. Dans la parole, on est avec quelqu'un et il faut aussi des moments d'écoute, il faut des moments d'échange, et puis on voit son partenaire, et donc on est également centré sur l'image de soi qu'on veut lui donner. Et je pense que l'écrit, justement, permet une plus longue introspection, c'est plus facile de rentrer à l'intérieur de soi et de s'exprimer.
Alors dans votre podcast, Alice Milot et Charlie Dupio, vous êtes allés vraiment sur toutes les voies de conflits possibles. Il y a des conflits qui sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus durs que d'autres. C'est le cas de la lettre sonore « Cher ex-violence ». C'est toute la problématique de la violence conjugale.
Oui, en effet, on a voulu traiter ce sujet-là. Alors, c'était pas facile parce que du coup, ça voulait dire qu'on donnait la parole aux deux, donc
sur le même plan.
C'est-à-dire qu'il y avait un quart d'heure qui était consacré à la femme victime et un quart d'heure qui était consacré à l'homme auteur de violence. Donc, on s'est pas mal trituré les méninges pour se dire est-ce qu'on a le droit de le faire, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est une parole qu'on peut mettre sur un plan d'égalité. Et on s'est dit oui, en fait, on a tenté l'expérience. Alors, on a mis énormément de temps à trouver l'homme auteur de violence.
C'est le cas d'ailleurs en justice. Hein. L'agresseur est autant entendu que la victime.
Absolument. Bah oui, la présomption d'innocence. Hein. Et donc, on a voulu trouver quelqu'un. En fait, on a été assez exigeante sur le profil parce qu'il fallait quelqu'un qui ait suffisamment de recul sur ses actions pour pouvoir en parler avec beaucoup d'intelligence qui ait réglé plein de choses, en fait. Quoi.
Et qu'il se sente coupable et qu'il ait envie de s'excuser aussi. C'est important.
Ouais. Donc, finalement, on est passé par plein d'associations. On a mis au moins 6 mois à trouver quelqu'un. On a trouvé quelqu'un que je trouve magnifique. Voilà. Donc là, on va entendre un extrait avec deux individus. Donc pendant
qui n'ont pas été en qui n'ont pas.
Non, il s'agit
vécu.
Pas du même couple.
Voilà, c'est pas le même couple.
Ce sont deux couples et deux histoires de violence. Donc pendant 14 mois, il y a Sandra qui a vécu avec un homme violent et pendant 3 ans, Pierre qui a maltraité sa femme. Voilà, donc c'est deux couples. Je répète bien, deux histoires de violence, deux regards et tous deux s'adressent à leur propre ex-conjoint dans cette lettre sonore.
Cet homme était plein d'imagination. J'ai eu un couteau de cuisine, de boucher même, je ne sais pas comment on dit, enfin une lame qui fait à peu près 20-30 cm dans la bouche pour me menacer, je ne sais plus à propos de quoi on se disputait. Et ça peut être déclenché par tout et n'importe quoi. Il demande le sel, je ne lui ai pas donné le sel. J'ai été menacée aussi à la batte de baseball de me déshabiller. Donc vêtement par vêtement, évidemment, sinon c'est pas drôle. Une fois qu'il m'avait mise à nu, m'a forcée à dormir sur un tapis par terre, parce que c'est comme ça que dorment les chiens. Et sinon, sa violence, entre guillemets, favorite, c'était plutôt les gifles. Voilà. Ça va durer 14 mois. La violence est tellement puissante, douloureuse, psychologique et physique, que je me dis, il va me tuer. Mais j'arrive pas à partir. Donc j'ai prononcé ces mots un jour en lui disant « Je sais que je mourrai de tes mains ». Ce qui est du pain béni sûrement pour lui. Parce qu'il se dit « Tant mieux, elle est acquise à ma cause, elle va rester là toute sa vie sans jamais se rebeller ».
Elle avait des bleus, même une fois je l'avais fait un bleu quand je l'ai poussé par terre. Elle avait un gros bleu sur les fesses, elle m'a montré. Et quand je voyais ça, ça m'attristait. Oui, j'avais honte de moi d'avoir agi comme ça. Au bout de la troisième fois, j'étais voir un psychologue pour calmer mes nerfs, pour sauver notre couple. Parce qu'on avait de l'amour, on s'aimait. Je n'ai pas fait le bon choix à la faire du mal. Et moi, je savais au fond de moi, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Et après, on a cherché des solutions. On m'a fait parler de mon enfance. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à trouver pourquoi je suis comme ça. Mais j'ai vu mon père frapper ma mère. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué parce que j'étais tout seul avec eux, c'est moi qui allais les séparer et qui poussait mon père. Je lui disais non, fais pas ça. J'avais 12, 13 ans. En grandissant, je lui dis je veux pas être comme ça, je veux pas être comme ça. Et ça, j'aurais dû en parler Je suis resté avec ça en moi et j'ai reproduit pareil. C'est comme si Aurélie, je me suis vengé sur Aurélie. Je me défoulais sur elle. Pourtant, une fois, elle m'a posé la question, est-ce que j'ai vécu ça quand j'étais petit? J'ai dit non, parce que j'avais honte. Et pour moi, j'ai foutu ma vie en l'air. J'ai fait du mal à ma compagne. Aujourd'hui, là, je veux dire que j'ai tout perdu. Mon enfant, ma compagne, quelqu'un que j'aimais, j'ai tout perdu. Et ça, je m'en voudrais être dans toute ma vie. Ça. J'ai pris conscience de certaines choses, de la façon d'agir. Je suis sur la voie de la guérison. Si on n'arrive pas à dialoguer, vaut mieux partir.
Si on n'arrive pas à dialoguer, il vaut mieux partir, Dominique Picard. Comment vous recevez ce témoignage de cet homme qui dit « j'ai tout perdu », mais il a gagné les regrets, la compréhension du passé aussi.
Oui, il est très émouvant cet homme. Hein, et j'approuve complètement le fait d'avoir mis les paroles en perspective. Il a dit quelque chose de très important, Pierre. Il a dit « j'avais honte ». Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu le dire, que son père avait frappé sa mère. Le poids de la honte et du secret donne et font également une sorte de chape de plomb sur la parole. Il ne pouvait même pas dire que son père frappait sa mère. C'est-à-dire que quelque part, il fallait qu'il excuse ses parents. Et quel est le meilleur moyen d'excuser ses parents? Ben, c'est de les imiter. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Quand je dis le meilleur moyen, je ne l'approuve pas, bien sûr. Mais je dis, dans ce travail tarabiscoté et inconscient des enfants qui ont souffert de situations terribles pour eux, eh bien, il les a imités pour les excuser, en quelque sorte, sans se rendre compte de ce travail.
La honte est également partagée, est également un sentiment qui bloque la communication, l'action pour se protéger, du côté de la victime, d'ailleurs. Souvent, c'est ce qu'évoquent les femmes qui sont victimes de violences. Est-ce que c'est comme ça aussi que vous l'avez ressenti, Charlie Dupiot et Alice Milot, lorsque vous avez interrogé la victime, Sandra ?
C'est vrai qu'effectivement, il y a eu une difficulté pour elle de s'exprimer en tant que victime. Et alors aussi, la question, c'était est-ce que vous êtes d'accord pour être dans la même lettre sonore qu'un ex-auteur? Et ça, c'était pas évident à gérer. Alors, il fallait parler de l'idée, parler du concept. Et finalement,
oui, il y avait une
elle a accepté, mais il y avait une méfiance, bien sûr. Et même nous aussi, on est prudente. On veut pas imposer des choses qui seraient, voilà, qui pourraient leur porter atteinte ou les blesser. Donc, effectivement, il y a cette question de la honte du côté de la victime.
Et c'est en tout cas ce qui peut être à l'origine de la non-communication ou mal-communication. C'est pas toujours le cas, ceci dit, Alice Milot.
En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, le dialogue impossible naît d'une partie ou d'une autre. D'un secret, en tout cas, de quelque chose qui ne peut pas être dit, mais même souvent qui ne peut pas être dit à soi-même.
Oui, c'est ça. En fait, on comprend en dialoguant ce qu'on voulait dire. On comprend des choses sur soi.
On accouche, en fait, de cette propre névrose à ce moment-là. Et ça me fait juste penser à une anecdote que j'avais trouvée. Alors, c'était une lettre sonore qui s'était faite sans nous, finalement. C'est une prof qui nous avait raconté ça, qu'elle avait une élève en classe qui passait son temps à se coiffer, quoi. Et elle se disait, mais qu'est-ce qu'elle a à se coiffer tout le temps en classe? C'est pas possible. Elle arrêtait pas de l'houspiller. Et puis, finalement, au bout de plusieurs mois, l'élève a fini par lui dire « Mais madame, c'est le seul endroit où je peux me coiffer parce qu'à la maison, je dois porter le voile. » Et vous voyez, typiquement, là, c'était un conflit entre un prof et un élève, alors qu'on aurait pu résoudre par une lettre sonore. Elles n'ont pas eu besoin de nous, heureusement, c'est génial. Mais typiquement, c'est-à-dire que là, il y a une incompréhension qui est due à un secret.
Et puis, il y a le fait aussi de ne pas réussir à dialoguer au moment présent. Je pense à une lettre qu'on a faite qui s'appelle « Chère classe », où là, donc, c'était une classe de 3e professionnel, toujours à Auxerre, dans ce même lycée où on a entendu le premier extrait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, cette 3e pro a été terrible, puisque dès le départ, un des premiers cours, un élève a jeté un sécateur, puisque c'était un cours de pratique, vers une professeure, qui l'a évidemment très mal pris. Et en fait, ça a dégénéré comme ça. Il y a eu un groupe de 5 élèves qui ont été très, très perturbateurs pendant tous les cours, ce qui a posé des problèmes pour les autres élèves qui, eux, voulaient suivre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu un an après cette classe, que ça a fait du bien à tout le monde de s'exprimer, à la fois les profs, à la fois les élèves aussi, qui avaient été un petit peu victimes
de
cette ambiance.
Revenir sur un conflit qui avait eu lieu un an avant. avant.
Ouais. Et où en fait personne n'avait parlé à ce moment-là. Alors malheureusement, on n'a réussi à avoir aucun des 5 élèves perturbateurs. Soit ils ne voulaient pas témoigner, soit ils n'étaient plus là. Il y en a un qui était en hôpital psychiatrique, l'autre qui était parti un petit peu loin. C'était compliqué. Mais même ça, en fait, ça a fait du bien, rien que le fait de parler et le fait de s'écouter ensuite, puisqu'on a diffusé la lettre encore 1 an après, donc 2 ans après les faits. Mmh. Et pour vous dire, une des profs qui témoigne dans cette lettre sonore veut absolument faire écouter cette lettre sonore à des élèves perturbateurs dont elle a encore les adresses mail, parce que pour elle, c'est important, en fait, qu'ils comprennent le mal qu'ils ont fait. Ça, c'est très important. Et ensuite, qu'ils s'excusent. Et en fait, c'est là qu'on voit que la parole, elle ouvre vraiment un dialogue et elle peut porter, par exemple, enfin, amener à des excuses.
Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41 à partir du podcast Postscriptum de Alice Milo, Charlie Dupio. On essaye de comprendre quels sont les mécanismes de la résolution de conflits, comment la parole peut faire du bien. On en discute aussi avec vous, Dominique Picard, qui êtes psychosociologue. Vous publiez Les conflits relationnels. Et vous nous appelez pour nous parler de ce que vous vivez au quotidien. On accueille Timothée chez 7 milliards de voisins. Bonjour Timothée.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les voisins.
Vous êtes à Sarre, au sud-est du Tchad. C'est pour nous parler d'une difficulté de dialogue dans votre couple.
Exactement, c'est plus avec ma petite amie. Mm-hmm. En fait, avec ma petite amie, souvent on ne peut jamais passer 2 jours sans se quereller.
Oui.
Et à chaque fois qu'on se querelle, c'est moi qui suis le premier à venir auprès d'elle pour essayer qu'on puisse établir un climat de dialogue pour pouvoir régler, n'est-ce pas, nos problèmes. Malheureusement, à chaque fois que je viens pour qu'on puisse établir ce climat de dialogue, c'est un peu difficile avec elle de me comprendre. Et donc, elle va passer peut-être 2 à 3 semaines avant de revenir. Et lorsqu'elle revient, elle va tenir juste avec un mot de pardon et un mot également de regret de ce comportement qu'elle a présenté vis-à-vis de moi. Et à chaque fois, j'essaie de lui faire comprendre que voilà, dans une amitié ou dans un partenariat, on ne peut jamais, n'est-ce pas, passer sans problème. Mais il faudra que le dialogue soit un moyen principal pour nous, afin qu'on puisse régler nos problèmes. Mmh. Malheureusement, elle comprend à cet instant dont je lui parle.
Mais elle, en fait, elle a besoin de ce temps de 2 à 3 semaines, on va dire, de distance et peut-être un peu de brouille, hein, parce que dans ces moments-là, vous êtes un peu fâchés l'un avec l'autre, si je comprends bien. Hein. Elle fait la tête.
Bien, je n'arrive pas à comprendre, mais pendant ce temps, quelquefois, je l'envoie des messages ou bien je l'appelle au téléphone, elle ne décroche pas mon appel, elle ne répond pas à mes
messages. C'est ça.
Ouais. Et donc, elle va continuer comme ça jusqu'à quand elle-même, elle arrive déjà à avoir des bons sentiments, elle revient et puis elle a juste un petit mot de pardon et puis voilà, c'est tout. Et elle regrette le fait en tout cas.
Oui, elle a un temps qui est différent du vôtre. Dominique Picard, on a aussi reçu un message de Samuto qui est en RDC qui dit « Pour reprendre une conversation rompue, il faut trouver le bon moment et les bons mots. » Comment vous analysez les difficultés de Timothée qui nous demande vraiment comment s'y prendre hein, pour ne pas en arriver là?
Oui, bah, pour dialoguer, il faut être deux. Et il faut être deux, non seulement à avoir envie de dialoguer. Moi, je n'ai que la parole de Timothée, je ne sais pas ce qui se passe pour sa petite amie. Mais il faut être deux à avoir envie de dialoguer. Et il faut aussi être deux qui vivent sur le même timing, comme vous l'avez si bien signalé. C'est-à-dire que le temps de la petite amie de Timothée n'est peut-être pas le temps dont lui a besoin. Et en plus, peut-être que la petite amie de Timothée, elle a des choses à dire, soit dont elle n'a pas conscience, ça arrive, hein, c'est très fréquent, ça nous arrive à tous, soit des choses qu'elle n'arrive pas à lui dire parce que lui, qui a une parole plus facile, met ses propres problématiques sur la table plus facilement. Donc elle se sent peut-être obligée de se soumettre aux problématiques de Timothée sans avoir la possibilité de donner les siennes.
Est-ce qu'on pourrait donner 1 ou 2 conseils simples et rapides à Timothée ?
Quand on a des difficultés de communication à ce point-là, faut pas rester en tête à tête. Il faut absolument pouvoir se parler devant une autre personne. Et une personne un petit peu dont c'est la profession, un médiateur, un psychologue, je ne sais pas, ou une personne qui a une certaine autorité et la confiance des deux autres. En tête à tête, il y a peu de chances que ça débouche sur quelque chose.
Merci Timothée en tout cas de nous avoir appelé. Peut-être que vous pouvez aussi travailler avec les messages vocaux de WhatsApp. Je sais que ce sont aussi des techniques qui sont utilisées, Charlie Dupiot.
C'est quelque chose qu'on
encore
a compris.
Encore faut-il que votre partenaire accepte ça. Mais...
Effectivement, avec Postscriptum, de fait, c'est un petit peu ce qu'on fait. C'est-à-dire que les personnes s'expriment oralement, séparément. Et c'est maintenant des techniques qu'on a aussi incluses dans notre vie personnelle, je pense, Alice et moi. Le fait de faire des notes vocales donc sur WhatsApp, quand quelque chose ne nous va pas, quand on a envie de mettre les mots... auprès de quelqu'un, de la famille ou une amie, peu importe. Et voilà, alors il ne faut pas faire des notes vocales forcément trop longues, mais en tout cas, l'idée, c'est quand même de raconter un peu son point de vue. Et l'avantage que ça a, c'est qu'on n'est pas face à l'autre quand on parle. Donc, c'est plus facile, on ne voit pas ses réactions, ses mous, on ne voit pas en train d'essayer de nous interrompre, juste on s'exprime. Et pour moi, mais après, je pense que ça dépend de chacun, c'est plus facile à entendre qu'à lire. Parfois, les mots écrits peuvent être un peu durs. Voilà, donc je pense que ça peut être une technique...
Et après, il ne faut pas que ce soit un déversoir d'agressivité.
Oui,
une fois encore, c'est-à-dire qu'à la seconde où vous ouvrez votre bouche, il faut que vous le disiez avec amour, avec tendresse, avec l'envie de réconciliation et pas l'envie de régler votre linchal, quoi. Mmh. Enfin, voilà, il faut vraiment être dans la bienveillance.
Sinon, le silence est peut-être finalement préférable de la part de sa compagne pendant deux ou trois semaines. Merci en tout cas, Timothée, de nous avoir appelé pour nous soumettre ce cas. C'est intéressant. Un autre auditeur aussi qui est au Tchad nous dit, c'est Abdraman qui est à N'Djamena, nous dit quand la communication se bloque, la violence physique commence, on a besoin de sensibilisation sur le sujet, je demande des conseils aux invités. C'est vrai que ce qu'on comprend bien là, que ce soit des mécanismes dans la classe, dans un milieu scolaire ou des conflits entre adultes ou des conflits dans le couple, les mécanismes sont souvent relativement similaire. Alors évidemment, un conflit, je ne sais pas, interethnique, un conflit entre deux nations a probablement des ressorts encore plus complexes, mais néanmoins, on peut établir des similitudes. Je voudrais que là, on arrive sur un cas de la lettre sonore qui s'appelle « Cher flic » dans votre podcast indépendant Postscriptum, parce que là, c'est vraiment un conflit qui oppose deux groupes et non pas une personne et une autre, comme c'est le cas dans le couple.
Et là, on est vraiment dans le dialogue difficile, voire impossible en réel. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut essayer à notre échelle de renouer le dialogue entre la police et, en l'occurrence, des jeunes de quartier en France. Donc, éviter un peu les tensions, éviter les malentendus. Et donc, on est allé à Marseille. On a proposé un échange épistolaire, donc par micro interposé, entre un policier, Serge, qui a longtemps été en poste dans le quartier nord de la ville, et Amar, qui lui est un jeune Marseillais de 17 ans.
Chers jeunes des quartiers populaires, nous ne sommes pas ton ennemi. Si tu n'as rien à te reprocher, alors laisse-nous faire notre travail. Nous sommes là pour te protéger, mais aussi pour protéger ta famille. Si tu as eu une mauvaise expérience de la police, s'il te plaît, ne fais pas d'amalgame.
Quand tu les regardes, il y a un jeu du regard, directement. Ils te regardent, je sais pas, ils te dévisagent. Ils te regardent mal et tout. Si tu restes en train de les regarder, ils vont automatiquement venir vers toi parce qu'ils voient genre que tu es en train de résister au regard. J'ai pas envie qu'ils me violent du regard. Moi, je les regarde. Ça leur met la haine, ils aiment pas. Moi, je baisse pas le regard. Mes potes, ils baissent pas. C'est pour ça qu'ils viennent à chaque fois me contrôler. Chers policiers, est-ce que je vous aime? C'est moite-moite. Oui et non. Oui, parce que vous aidez les gens. Vous les sauvez. Voilà, pour ça, et non, parce que vous êtes violent un peu. Quand il n'y a pas de caméra, vous êtes violent un peu. Vous parlez mal, quand il n'y a personne. Est-ce que vous me faites peur? Non.
Je m'appelle Serge, je suis fonctionnaire de police, je suis de Marseille, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le quartier nord de Marseille. Je suis également membre du bureau national du syndicat Vigipolice, j'ai 47 ans et je suis père de famille. Alors je me souviens, il y a quelque temps de ça, nous étions en patrouille en voiture, et à notre vue, il y a un jeune qui part en courant. Donc du coup, on se demande s'il a quelque chose à se reprocher, donc du coup, on le rattrape, on le contrôle, et en fait, quand on le contrôle, ben, ça part en outrage, en insulte, du coup, on l'interpelle, parce que c'est la procédure. Et lors d'interpellation, il se rebelle, il ne se laisse pas interpeller, ben, il a empêché qu'on le menotte, il a fallu mettre les techniques professionnelles pour le menotter, tout ça. Mais les mots, ils étaient forts, quoi. Je veux dire, c'était des insultes dans tous les sens, quoi. Sans aucune raison. Et en fait, on essaie de comprendre pourquoi il a pris la fuite en nous voyant, il ne nous explique pas, il fait que nous insulter. Ben nous, on pensait déjà que, vu la situation, il avait fait quelque chose de grand. Quoi. On pensait que, pour qu'il refuse tout ça, on a dit qu'il a fait quelque chose. En fait. Et en fait, quand la situation se calme, quand on revient au commissariat pour le présenter à l'officier de police judiciaire, ben là, ce jeune redescend, en fait, il se calme. Et en fait, il dit que simplement, il nous a vus et qu'il a pris peur. Et qu'en fait, il a pris la fuite sans aucune raison, qu'il n'avait rien à se reprocher. Ce qu'on a pu vérifier après, qu'il n'avait rien à se reprocher. Il a vu la police et il a eu peur. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi. Peut-être que dans son passé, il ne nous a pas tout dit, probablement. Hein. Et ces situations-là qui sont dommageables, je veux dire. Parce que finalement, si on n'a rien à se reprocher, le contrôle, il peut très bien se passer. Quoi.
Alors, dans ce cas de figure, dans cette lettre sonore, cher flic, évidemment... Ça oppose un conflit entre deux groupes. D'un côté, les violences policières, les bavures, les dérapages. Et puis de l'autre, les tabassages de policiers lors des contrôles. Et là, on a le sentiment qu'effectivement, c'est très compliqué de renouer le dialogue dans un conflit qui est enquisté depuis des années et des années.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette lettre sonore, on l'a réalisée en partenariat avec une asso locale de quartier qui essaye depuis plusieurs années de créer des dialogues en vrai, des rencontres entre justement des policiers du quartier et des jeunes, et qui n'a jamais réussi, en fait, à la fois parce que parfois, ce sont les jeunes qui déclinent ou les policiers. Et voilà, en fait, dans la vie réelle, on n'arrive pas à se confronter. C'est deux groupes qui ont du mal à se confronter.
Vous avez eu du mal à trouver des protagonistes qui acceptent
Oui, bah des deux côtés, principalement du côté du policier notamment, on a mis pareil des mois, mais on prend le temps à chaque fois, on n'a pas, on n'est pas dans une urgence justement de devoir remplir notre antenne, donc s'il faut 6 mois, 1 an pour trouver un interlocuteur juste, on le prend. Et le policier, ça a été très difficile, on a contacté énormément de syndicats, puis on voulait trouver quelqu'un de juste, de mesuré, mais là on est typiquement dans cette relation, si on les avait mis l'un en face de l'autre, on aurait eu un jeune qui aurait été dans cette incapacité à dire les choses face à quelqu'un qui est son supérieur hiérarchique, c'est tout, c'est un constat social, c'est tout, et puis le policier est dans une violence aussi de ce qu'il vit au quotidien qui fait que c'est difficile de se parler.
Est-ce qu'il y a un moment, Dominique Picard, où finalement, même avec les techniques de médiation, de résolution de conflits, le passif est trop lourd, on ne peut plus reconstruire un dialogue, si ce n'est avec un public nouveau, c'est-à-dire avec une génération suivante, une cohorte suivante?
Je ne sais pas. Je ne sais pas là, parce qu'on se trouve face à un problème extrêmement compliqué. Ce qu'on voit dans cette lettre-là, cher flic, c'est qu'on n'est pas. Il n'y a pas des individus face à d'autres individus, ou un individu face à un autre individu. Il y a un prototype d'individu, le flic. Et un prototype d'individu, le délinquant. Enfin, c'est-à-dire que le dialogue, il est chargé, lourdement chargé, d'idées préconçues. Il y a une sorte de, on appelle ça nous des catégorisations dans notre tête. C'est-à-dire qu'il y a des idées préconçues sur ce que sont des catégories de gens, des stéréotypes. Un policier, pour un délinquant, un policier, c'est celui qui tape, celui qui poursuit, etc. Le délinquant, pour un policier, c'est celui qui ne respecte pas la loi, celui qui a des choses à cacher. Et ce ne sont pas des individus qui se rencontrent, ce sont des prototypes.
Ouais. Mais pour sortir de ces prototypes, est-ce que seul le dialogue est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas aussi des actes? Et c'est tout le débat sur les violences policières. Beaucoup disent maintenant qu'il faut intervenir dans la formation des policiers, dans la façon d'appréhender un contrôle d'identité, et également dans la façon de travailler en amont avec les jeunes. Là, il y a des actes qui sont nécessaires et pas seulement du dialogue.
Oui, ben ça c'est évident que le dialogue ne suffit pas, il est impossible d'ailleurs, alors c'est très clair. Il y a des actes, il n'y a pas, probablement pas, ce n'est pas un problème que j'ai étudié de près et seuls les gens qui l'ont étudié de près peuvent en parler. Mais c'est un problème tellement complexe qu'à mon avis, il n'y a pas une solution. Il faut travailler dans plusieurs dimensions, des gens s'y emploient. Et bon, j'espère qu'on y arrivera, on y arrivera un jour, mais là-dessus se greffent des problèmes qui n'ont rien à voir avec la police et les délinquants, qui sont des problèmes sociétaux, des problèmes de chômage, des problèmes économiques.
Des tensions sociales et des rapports de classe aussi.
Bien sûr.
Et je pense que pour éviter de figer les gens, comme vous le dites, dans une représentation, c'est important d'essayer quand même d'écouter ce qu'ils ont à dire et de voir aussi qu'ils ont des personnalités différentes, de voir que tous les policiers ne raisonnent pas pareil, d'écouter leurs propos, leurs points de vue singuliers. Je pense que ça, c'est quand même une première étape.
Et donc, oui, c'est ça. Et puis, remet de la nuance, en fait, à l'intérieur des deux discours. Parce que souvent, chacun s'enferme dans une posture. Pour donner de la force aussi et du poids à ce qui doit être dit, c'est plus facile de se caricaturer même soi-même. Et en fait, nous, ce qu'on offre comme possibilité, en fait, nous, ce qu'on aime avec Charlie, en fait, c'est les contradictions des gens. Et typiquement, dans les débats de société, c'est là qu'on va aller chercher ce qui nous intéresse, c'est la contradiction. C'est genre, oui, mais vous dites ça, mais là, et d'un coup, la personne va se retrouver inconfortable avec son propre point de vue. Et elle va se rendre compte qu'en fait, elle a une nuance en elle qu'elle n'a pas forcément envie d'exploiter parce que ça donne de la faiblesse à son discours. Alors qu'en réalité, c'est là que le dialogue il est important, ouais. C'est dans la nuance des deux côtés.
Et qui est le propre de l'être humain aussi, ces contradictions et ces nuances de personnalité et de vécu. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On parle des résolutions de conflits à la lumière de votre podcast Postscriptum, de vos lettres sonores de protagonistes qui a priori sont ennemis. Et on vous donne la parole, bien sûr, les voisins et les voisines. Yacouba nous appelle de Pointe-Noire au Congo-Brazza. Bonjour Yacouba.
Bonjour Emmanuel, bonjour 7 milliards de voisins.
Soyez le bienvenu Yacouba chez 7 milliards de voisins. Vous êtes ivoirien, vous vivez à Pointe-Noire et vous avez vécu pendant plusieurs mois, là, à cause de la pandémie, de grandes difficultés relationnelles avec votre mère. Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, au début de la pandémie, j'ai eu vraiment des difficultés avec mon mère parce que avant la pandémie, j'arrivais à envoyer de l'argent, je m'occupais un peu de la famille. Et quand la pandémie a commencé, je n'arrivais plus à envoyer de l'argent et je n'appelais plus aussi fréquemment.
Vous êtes couturier, hein, c'est ça ?
Oui, oui, je suis couturier.
Donc, plus d'argent, plus de possibilités d'aider votre famille. Vous expliquez ça au téléphone à votre maman, forcément ?
Oui, au début, je n'ai pas expliqué. Je crois que ça a été aussi mon erreur.
Voilà. Et pourquoi vous n'avez pas expliqué ? Parce que vous aviez honte de ne plus gagner d'argent ?
Voilà, et de dire que je suis en difficulté, au fait.
Ah oui.
De dire, d'exprimer, de dire à ma mère comme ça que ça ne va pas. Donc, c'était un peu compliqué au début, elle ne comprenait pas. Donc, elle a appelé ma petite soeur avec qui je m'entends un peu mieux. Donc, elle a expliqué, je ne comprends plus ton frère, je ne sais plus, peut-être qu'il nous a oubliés, peut-être qu'il s'est pris même peut-être une femme. Donc, un peu compliqué, j'étais obligé d'expliquer. Il a appelé, expliqué mes difficultés, elle m'a compris après.
Oui, parce que finalement, vous avez reconnu qu'il fallait parler, que vous n'étiez pas responsable de cette situation. Ce n'est pas parce que vous étiez un mauvais couturier que vous n'aviez plus de travail, c'est parce que vous étiez frappé, comme toute la planète, par une crise économique mondiale.
Et aussi le confinement, parce que là-bas, il n'y a pas eu le confinement. Comme ici.
Oui. Voilà. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous racontez, c'est que, en fait, quand on laisse le silence s'imposer, on laisse la possibilité à l'autre, en fait, de fantasmer tout un tas de choses sur soi-même. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut ne pas laisser ce silence s'installer trop longtemps. Parce que vous voyez, votre maman, elle s'est fait des films pas possibles. Elle a imaginé que vous aviez pris une femme, que vous la délaissiez. Du coup, il y a un fossé qui s'installe, qui devient immense, en fait. Donc, je dis pas que c'est simple. Hein, je vous jette pas la pierre. Hein, je dis pas que c'est simple de prendre la parole pour dire quelque chose dont on a honte. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que plus on laisse le temps, le silence s'installer longtemps, plus le malentendu se creuse et plus après, ça devient difficile de raccrocher les wagons.
Oui, d'autant plus quand il y a une distance physique. Yacouba, est-ce que vous avez un message à faire passer aux voisins, aux voisines qui vivent des situations de conflit difficiles, qui n'arrivent pas à dénouer le conflit ?
Oui, moi, à partir de cette histoire, j'ai compris que vraiment, tout est basé sur la communication. Voilà, et ne pas toujours tirer les draps sur soi-même, dire que j'ai raison. Il faut aussi parfois se remettre en question, voir vraiment si on a réellement raison. Mmh. Et toujours se parler. Je pense que c'est la base des choses.
Et puis, une troisième personne, comme c'était le cas pour votre petite sœur, qui peut faire les allers-retours pour raconter ce que pense l'autre, ça peut aussi, bien voilà. sûr, être très utile. Merci de nous avoir appelés. Yacouba, on arrive au terme de cette émission, Dominique Picard. Il nous reste vraiment très peu de temps. Je voudrais que vous nous disiez en quelques mots qu'est-ce qu'on doit retenir, finalement, pour essayer. Bien sûr, on n'est pas tous des professionnels de la résolution de conflits, mais en tout cas, quelques conseils à appliquer.
Oui. D'abord, je voudrais dire bravo à Yacouba. Hein. Il a compris beaucoup de choses et il a mis beaucoup de choses en œuvre. Et donc, il faut se parler. L'intérêt du podcast, il est là et bravo aussi de l'avoir créé.
Merci.
Il faut se parler. Il faut s'écouter. Les deux vont ensemble. Il faut être authentique. Qui est difficile, ça oblige à abandonner les stéréotypes qu'on a dans la tête sur, par exemple, les délinquants et les policiers. Ça oblige aussi à regarder en face ses propres difficultés. Pensons à Marie et Émilie tout à l'heure. Et puis, être capable d'écouter, être capable de se remettre en question. Et l'écoute, c'est pas simplement écouter les mots et les raisons de l'autre, c'est aussi écouter ce qu'il y a derrière les mots et les raisons et comprendre les émotions de l'autre. Oui. Vous voulez que je sois bref, j'ai essayé de l'être le plus possible.
Merci à vous, Dominique Picard. Vous signez les conflits relationnels. C'est la collection Que sais-je, Charlie Dupio, Alice Milo. Encore beaucoup de conflits à décoder, à comprendre
oui,
pour le podcast.
On travaille complètement.
Ouais. Oh oui, là, on peut travailler encore 10 ans sans s'ennuyer. Hein.
Merci en tout cas à toutes les deux, Charlie Dupio, Alice Milo, à télécharger, à écouter absolument, surtout quand on se sent bloqué dans un conflit. Post-scriptum, c'est un podcast indépendant de Lettres Sonores qui ouvre un dialogue par micro interposé. Il y a 34 épisodes.
Oui, on publie des épisodes tous les 15 jours.
Et on est sur toutes les applis de podcast si vous voulez vous abonner.
Nasema kweli Mungu halalio Mungu halalio Si lazima unikumbushe kuwa mimi mwenye dhambi Najua tena sana Najijua tena sana Si lazima useme kuwa mnyonge kweli hana Kila siku, tunaona kila siku Kwa neema nasimama Ile mwamba ni salama Binadamu hanitishi Natembea kwa imani Kwa neema nasimama Ile mwamba ni salama Binadamu hanitishi Mimi natembea kwa imani Nimepitia majanga makubwa Lakini Mungu halali Ningepotea
de voisins, rediffusion de notre émission sur le coton africain. De bonne qualité, cultivé avec la pluie et pas les arrosages intensifs. Il aurait tout pour plaire dans le monde de la transition écologique. Mais ce coton, surnommé l'or blanc, part en quasi-totalité vers l'Asie pour être transformé en fil de coton. Alors quels sont les obstacles à la transformation de ce coton sur le continent avec des usines africaines? On en parle demain.
7 milliards de voisins. C'est fini. Littérature sans frontières.